J'ai fait un rêve.
Dieu m'a donné un rêve.
Mon église.
Il y a longtemps. Est-ce que ça va rester qu'un rêve?
On fait tous des rêves.
Comment connaître celui de Dieu?
Est-ce que c'est si long?
Je me sens perdue. J'ai fait un
rêve. J'ai fait un rêve. Je le sais.
Je veux trouver la force de tenir.
Je perdrai pas l'espoir.
Je perdrai pas la foi.
Je sais que Dieu n'a pas oublié ce rêve.
Je sais que Dieu a encore un rêve.
Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon église,
pour moi.
Ce matin, on continue notre série sur le rêve de Dieu, basé sur la vie de Joseph. Et je prie vraiment pour que ce message ne soit pas mon message. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous n'avez pas besoin de m'entendre parler. Vous avez besoin d'entendre parler Dieu. Amen. Alors vraiment, je prie que ce message, on soit à l'écoute de la parole de Dieu, parce que c'est ce dont chacun d'entre nous avons besoin. On a besoin d'entendre la parole de Dieu. Il nous est tous déjà arrivé de nous réveiller au beau milieu d'un beau rêve, ok? Un beau rêve. Puis là, on se réveille tout d'un coup. Imagine, t'es sur la plage, tu te fais griller, le sable blanc, la mer est turquoise, le ciel est bleu, il y a les palmiers qui sont verts. C'est parfait, il y a le bruit des vagues. Là, t'es en train de te faire bronzer, tu sais. Le bruit des vagues, juste pas trop fort, juste comme il faut, là. Des petites vagues, parce qu'il y a la barrière de corail qui empêche que ce soit des trop grosses vagues. T'as une pina colada dans la main droite. Sans alcool, bien sûr. Et là, t'es super bien. Mais tout d'un coup, il y a comme un petit son qui commence tu commences à entendre un petit son. T'sais, pas trop fort. Puis là, le son grandit de plus en plus. Il vient de plus en plus intense. C'est un son, t'sais, un son profond dans les graves. Vraiment intense. Puis là, il devient de plus en plus intense. Tellement que tout commence à trembler derrière toi. Puis là, tu te réveilles. Puis c'est la déneigeuse qui passe sur le rang Sainte-Mathilde. Et là, ton rêve est brisé. Ton rêve, t'as échappé. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, fait le test. Tu fais un beau rêve, puis tu l'aimais, ce rêve. T'aimais, c'était comme une porte ouverte, genre sur autre chose, un échappatoire de la réalité. Puis là, tu te réveilles, puis bon, t'es dans la tempête de neige, ça ne va pas bien. Puis là, t'essayes de te rendormir. Puis, est-ce que vous avez déjà essayé de vous rendormir? Oh, je vais retourner dans mon rêve. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est impossible. Et ça fait comme un sentiment frustrant. Moi, des fois, puis en plus, à ces moments-là, tu es dans un demi-sommeil, tu sais, tu es comme, je veux retourner dedans, j'étais bien. Puis là, c'est comme tu as un sentiment de frustration. Et moi, quand je lis l'histoire de Joseph, notre cher ami Joseph, j'ai l'impression que c'est l'histoire de sa vie. Qu'à chaque étape de sa vie, c'est waouh, c'est super, c'est le rêve. Puis là, la déneigeuse passe et Joseph se réveille. Puis pour résumer, parce qu'on est depuis quelques semaines dans cette série, Joseph, son histoire, l'histoire qui nous est racontée de lui commence alors qu'il est adolescent. Puis Joseph, c'est le préféré, c'est le chouchou de son père. Et il reçoit un rêve de la part de Dieu que sa famille, ses frères, puis même ses parents allaient se prosterner devant lui. Okay? Puis là, bon, en dehors de la signification de ce rêve, ben, ça va bien pour lui. Joseph est comme, waouh, déjà mon père... Je suis le chouchou, il reçoit des cadeaux, tu sais, un chouchou, là, un préféré, c'est comme, il reçoit des cadeaux, un beau manteau et tout ça. Mais là, la déneigeuse passe, pour la première fois. Et Joseph est vendu par ses frères sont jaloux, il est vendu par ses frères comme esclave. Mais là, de nouveau, ça commence à se reconstruire. Il se retrouve, engagé, mais plutôt esclave dans la maison de Potiphar, qui est un Égyptien riche, un haut fonctionnaire. Et là, ça va bien, Dieu est avec lui, il y a la faveur de Dieu, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec le message d'Élise, qui était vraiment un bon message. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter, c'était vraiment un bon message. Mais donc, ça va bien, Joseph, Potiphar, il voit ses dons, il lui donne des responsabilités, il commence à prendre sa place dans la maison jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui passe? La déneigeuse. Là, c'est la femme de Potiphar qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, et elle le fait accuser injustement. Le témoignage de Joseph est sali, et puis là, il est envoyé en prison. C'est juste des hauts et des bas. Et c'est là qu'il est rendu. Il est en prison. Le rêve de Dieu que Dieu lui avait donné lui échappe totalement. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Quand le rêve nous échappe ». Et peut-être que c'est le sentiment que tu as en ce moment lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes un petit peu en arrière, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu essaies d'avancer dans un domaine, tu sais, puis on a tous ce domaine où on pense à une personne ou quoi, puis on a tous un rêve, puis que là, ça redescend. Tu avances, commences à accomplir de belles choses, puis là, le rêve t'échappe. Ça peut être une relation, une relation après l'autre qui échoue. Peut-être que c'est ton travail, tu n'es pas reconnu dans ton travail, tu essaies de faire de ton mieux, tu fais de ton mieux, tu travailles avec excellence, puis là, il n'y a toujours aucun avancement dans ta carrière. Peut-être que tu te bats pour remonter la pente sur le plan financier, puis là, toujours un imprévu, et puis ça recommence à zéro. Mais si c'est ton cas ce matin, je veux te dire que ce message est pour toi. Tu es à la bonne place. Ce message est pour toi, et on va regarder, on va pouvoir aujourd'hui regarder la vie de Joseph, qui en est exactement là. Il est loin de son rêve, loin de son désir qu'il veut, qui pense que Dieu lui a mis sur son cœur. Il est loin, loin, loin. Et on va lire dans Genèse 40, versets 1 à 9. Alors, petit rappel, donc, ce qu'on a dit, c'est que Joseph est en prison après avoir été accusé de vouloir coucher avec la femme de son maître. Et donc, il est en prison. Et là, encore une fois, Dieu est avec lui. La faveur de Dieu est sur lui. Ses dons sont reconnus, on lui confie des responsabilités. Et donc, on va lire Genèse 40, versets 1 à 9. Tu peux suivre à l'écran ou dans ta Bible, si tu as ta Bible avec toi. Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph, et qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, l'échanson et le panetier du Pharaon, détenus dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Et Joseph leur demanda donc au haut fonctionnaire du Pharaon qui se trouvait en prison avec lui, dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Joseph, alors qu'il était adolescent, la Bible nous dit qu'il avait 17 ans quand il a reçu le rêve de Dieu. Et là, c'était « Waouh, c'est excitant, Dieu a quelque chose pour moi, c'est spécial, je suis spécial. » Et on l'avait vu aussi, hein, Joseph était comme un peu, il se vantait de ça, il n'était pas très sage dans sa façon de partager ce que Dieu avait mis sur son cœur. Et là, je vais vous voler un méga punch, ok ? Je vais vous divulcacher, comme j'aime ce terme. Spoil alert, le rêve de Joseph va s'accomplir. Oh, oui. Mais effectivement, Joseph va être nommé à la tête de l'Égypte et va effectivement voir ses frères se prosterner devant lui. Mais au moment où il avait reçu le rêve, il avait 17 ans. Puis au moment où l'accomplissement du rêve est arrivé, il avait 30 ans. Donc 13 ans se sont écoulés et le passage qu'on a lu ce matin prend place 2 ans avant que Joseph devienne le bras droit du Pharaon. Donc ça fait 11 ans, oui, il y en a un qui est bon en maths. Juste attentif, merci André. Donc ça fait 11 ans que Joseph, il est dans ce mode, il rêve, puis là il se réveille. Puis là, il rame. Joseph, il rame. Nous en France, on dit il galère. Okay. Et moi, j'avais un prof de maths quand j'étais au secondaire. Okay, je n'étais pas encore chrétien, renouvelé par le Saint-Esprit, et j'étais une plaie pour ce prof de maths. Okay, j'avais aucun respect pour lui. Puis le pauvre monsieur, quand j'y repense, là, j'ai un peu de la compassion. Puis c'était pas juste moi, c'était un prof qui se faisait pas beaucoup respecter, okay, qui avait pas beaucoup d'autorité, pauvre lui. Et donc moi, comme j'étais, c'était n'importe quoi en classe. Okay, c'était l'anarchie, on faisait n'importe quoi, on se promenait, on faisait, en tout cas, ça se passait pas bien pour lui. Mais lui, il avait sa petite vengeance parce que du coup, je suis en mode français là, en galère du coup. Et comme c'était un peu l'anarchie dans son cours, les résultats n'étaient pas là non plus. Et moi, il avait sa petite vengeance envers moi, ce qu'il me disait à chaque fois. Il me posait une question, puis là, je n'étais pas du tout là, je ne savais pas répondre. Il me disait, tu rames, Adam. Ah. Très bonne blague. Est-ce que tu rames, Ramadan, ok. Ah, c'est bon, ouais. Là, c'est le printemps, là, réveillons-nous. Mais j'aimerais vous dire que nous, par moments, on rame, mais quand on voit ce par quoi passe Joseph, il y a un autre niveau de galère, de ramage. Joseph, il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, puis revendu, puis accusé injustement, puis emprisonné. Donc Joseph, c'est difficile. Et 11 ans, c'est long. Prenons le temps d'imaginer, on lit comme ça, là, 11 ans, là, mais pense à où tu étais il y a 11 ans. Ok ? Puis imagine que tu appartiens à un projet il y a 11 ans, puis que le projet il est au point mort, là, ou même il est moins bien qu'auparavant. 11 ans, c'est long. Mais voici ce qui caractérise Joseph tout au long de ses 11 ans. Alors que ses propres désirs ne semblent pas répondus, ce qu'il caractérise, c'est qu'il se met au service des autres. Là où il est placé, peu importe où, il va servir. C'est vraiment dans son ADN, c'est ce qui le caractérise. Déjà, chez son père, il servait. Son père l'envoie auprès de ses frères. Puis chez Potiphar, il sert. Et encore ici, alors qu'il se retrouve en prison, son rêve s'est envolé, mais il se met au service de l'autre. C'est dans son ADN. C'est ce qui le caractérise. Et à ce moment-là, Joseph est en prison et on a envie de lui dire, humainement, ça ne fait pas de sens. Ça fait des années que tu galères, tu vas de galère en galère, tu te retrouves en prison et là encore, tu te mets à servir les gens autour de lui. Mais ce matin, en regardant ce moment de sa vie, je vous propose de découvrir trois secrets de Joseph, trois secrets du serviteur. Okay ? Et le premier secret, c'est que Joseph, il sert alors que sa réalité est similaire à celle des autres. Joseph est depuis un certain temps en prison. Dans le passage qu'on a lu, c'est comme quelques temps plus tard, mais ça peut vouloir dire longtemps. Ça fait peut-être un an, deux ans ou plus qu'il est en prison. Quand arrivent ces deux hommes, qui sont des hauts fonctionnaires égyptiens, qui vont être ses co-détenus, il vit la même réalité qu'eux, mais il se met à leur service. Joseph est tout autant prisonnier. Mais il n'attend pas. Il n'attend pas que les conditions soient meilleures. Il n'attend pas que d'avoir plus de pouvoir, comme il l'a rêvé un jour. Il n'attend pas d'avoir une meilleure position, d'avoir plus de moyens. Mais là où il est, en dépit de sa condition, en dépit de sa situation, il se met au service des autres. Et c'est là le premier secret du serviteur. Des fois, on regarde à certaines personnes, certains pasteurs, des hommes de Dieu qui portent un fruit génial, des hommes ou des femmes de Dieu qui ont un ministère florissant, international. Puis là, on s'imagine que tout va bien, que leur famille est parfaite. Vous savez, la famille qui se rassemble à Thanksgiving autour de la dinde, la famille canadienne parfaite. Là. Mais la réalité, c'est que dans toutes ces familles, chez tous ces hommes et chez toutes ces femmes de Dieu, il y a toujours un moment, une situation où le rêve leur échappe, où le rêve n'est plus là. Un fils ou une fille qui ne suit pas Dieu, un deuil, un divorce. Et parce que tu sers Dieu, c'est paradoxal de voir dans ton ministère quelqu'un venir à Christ, mais que les gens que tu chérisses, des fois, ne veulent pas entendre parler de lui. Que alors que dans ton ministère, tu vois des couples restaurés par l'amour de Jésus, mais que dans tes proches, il y a des divorces, il y a des déchirements. Mais j'aimerais te proposer, que c'est justement parce que tu vis des défis, parce que tu as des difficultés et que tu tiens bon, et que tu t'accroches à Dieu, que tu continues de le servir, que tu peux avoir un impact dans la vie des gens qui sont autour de toi. Moi, ceux qui me connaissent un peu savent que j'aime le soccer. Et on va mettre les choses au clair, on appelle ça le football. Ça se joue avec les pieds. Pas de débat. Moi, j'aime ça. J'aime suivre les championnats, surtout le championnat européen. C'est juste comme ça. Il y a les meilleures équipes sont là, les meilleurs clubs sont là, parce que c'est des clubs plus anciens, donc ils ont plus d'argent, donc ils achètent les meilleurs joueurs qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique latine, etc. J'aime suivre ça, mais ici, j'ai pas grand monde avec qui partager ma passion. Juste à voir, quand j'ai parlé de football, de soccer, il y en a plein qui ont levé les yeux au ciel. J'ai pas beaucoup de monde avec qui partager ça. Mais il y a quelqu'un dans l'église Nouvelle Vie qui est souvent sur nos staffs, sur nos meetings qu'on a en Zoom chaque semaine et qui s'appelle Anthony. Anthony Ajorque, d'ailleurs, il sera là la semaine prochaine, c'est lui qui va prêcher. On a découvert, en fait, je ne le connais pas vraiment. Je ne le connais pas beaucoup, je lui ai parlé peut-être une fois en vrai. Mais on a découvert par Internet, à distance, on a découvert qu'on avait cette passion en commun. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se retrouve... Sur un meeting Zoom, on va s'échanger là-dessus dans le chat. Puis là, dites-le pas à Pasteur Marc, là, parce qu'on est supposé l'écouter pendant qu'il parle pendant les meetings. Puis cette semaine, la semaine dernière, en fait, il y a eu un club français qui était vraiment dans lequel reposaient un peu tous les espoirs. Parmi les clubs français, celui qui avait les meilleurs joueurs, qui a vécu vraiment une grosse défaite. Okay, il était bien placé, il était bien avancé, et puis il s'est fait remonter. C'était une défaite lamentable, alors qu'on avait beaucoup d'espoir sur eux. Puis là, on était déprimés. Puis cette semaine, on avait un Zoom. Puis c'était drôle, parce qu'en plus, c'était le Zoom de soutien pastoral. On a pu échanger là-dessus. Et genre, c'était vraiment décourageant, c'était lamentable. Ça fait plusieurs années que ce club, on y croit, puis il ne se passe toujours rien. On vit la même réalité. Si j'avais parlé de cette défaite et que j'avais été la partager avec Céline, j'aurais pas eu la même compréhension, j'aurais pas eu le même regard. Alors, je suis bien désolé pour toi là, mais alors qu'avec mon ami Anthony, ben, on a pu échanger, comme c'était triste et décourageant, on savait de quoi on parlait. C'est justement parce que nous vivons les mêmes réalités que tout le monde autour de nous, que nous pouvons aider et servir les gens avec un amour et une compassion qui fait du sens, qui va être reçu. Et l'apôtre Paul nous dit, selon dans Romains 12, verset 15, il nous dit « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. » En tant qu'enfant de Dieu, la Bible ne nous promet pas qu'on va être exempté de souffrance. Mais par contre, Jésus, ce qu'il promet, c'est que dans les souffrances, il sera avec nous. Dans chaque défi, chaque combat, chaque épreuve, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance, il sera là et il est là. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Là je vous vois, vous n'êtes pas très animé par ça, mais hey, c'est la puissance de l'Évangile. Jésus est là au travers des épreuves, il est présent. Je vis la même réalité que tout le monde, mais Dieu est avec moi. Et je sais que si Dieu est avec moi, dans ces moments-là, ben, qui pourra être contre moi? Et faisons attention à minimiser et à banaliser cette vérité-là. Parce que c'est là tout le cœur de l'Évangile. C'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Si aujourd'hui je peux me tourner vers Jésus lorsque je suis affligé, c'est parce que je sais qu'il a à 100% été sur terre, à 100% vécu ma condition, qu'il a été tenté, il a souffert, il a vécu le rejet, il a vécu le deuil, la trahison, il a été confronté à la maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me tourner vers lui, sachant qu'il me comprendra, parce qu'il a vécu ma réalité. Et les gens autour de toi ont besoin d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. C'est justement tes défis, tes combats, tes rêves qui t'échappent, qui vont faire de toi quelqu'un d'apte à les aider. Moi, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à tourner les yeux vers Jésus. J'ai besoin que quelqu'un me serve, comme tu as besoin de servir quelqu'un. Et moi, je veux te poser cette question ce matin. Est-ce que tu permets à quelqu'un de te poser des vraies questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui se tient au courant? Et je parle d'un chrétien, là. Un chrétien qui est fondé sur Dieu, qui peut te demander « Hey, est-ce que ça va? Est-ce que ta relation avec Dieu va bien? Ou bien est-ce que tu es isolé? Est-ce que tu vis ta marche chrétienne? Tu dis que ça, tu peux la vivre tout seul. » Mais j'aimerais te dire que ça, c'est le plan de l'ennemi. Il veut nous isoler les uns des autres, nous faire croire qu'on doit juste s'occuper de nos affaires par nous-mêmes. Alors d'une part, je veux t'encourager, comme Joseph, à aller vers l'autre, mais aussi à laisser l'autre venir vers toi et se préoccuper de toi. Tu as besoin d'être servi. Regardez au verset 6 et 7. Joseph est pas juste là dans la même réalité. Il fait des démarches, il se rend auprès d'eux, il remarque leur état et il leur pose la vraie question. Donc c'est important que nous ayons quelqu'un qui a accès à nous, qui puisse nous poser les vraies questions, ou bien est-ce qu'on parle toujours de température et puis de football? On a besoin d'aller plus en profondeur. Donc Joseph sert, c'est le premier secret, il sert alors que sa réalité est similaire. Mais deuxièmement, il sert parce qu'il a une réponse différente. Sa réalité est similaire, mais sa réponse est différente. Nous avons une réponse différente, une réponse puissante, une réponse qui ne laisse pas indifférent. Donc, on est rendu dans notre passage où Joseph leur pose cette question. Il se renseigne à propos d'eux. Pourquoi vous avez cette terre si sombre aujourd'hui? Et Joseph apprend qu'ils ont fait chacun un rêve. Et chez les Égyptiens, l'interprétation des rêves était réservée aux prêtres égyptiens, aux prêtres et aux sages. Et donc, quand on dit prêtres et sages égyptiens, on sait que les Égyptiens, ils avaient une quantité de divinités, vraiment tout un panthéon. Et là, les deux hommes qui étaient habitués à la cour du pharaon, ils étaient habitués à avoir accès à ça, ils se retrouvaient dans une position où ils n'avaient pas accès aux personnes qui habituellement interprétaient les rêves. Ils se retrouvent dans une situation où leur solution habituelle n'est pas disponible. Elle leur fait défaut. Et Joseph arrive avec quelque chose de complètement différent. Il dit n'appartient-il pas à Dieu d'interpréter les rêves? Et ça, c'était vraiment à contre-courant. alors que l'Égyptien avait tout un panthéon de divinités, Joseph arrive avec cette réponse. N'appartient-il pas à Dieu, je vais la voir, n'appartient-il pas à Dieu d'interpréter les rêves? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a une seule réponse, une seule solution. Et alors que nous, on sort, on se réveille de 2 ans de pandémie, mais qu'on enchaîne un peu les mauvaises nouvelles en ce moment. C'est la réalité. Combien souffrent autour de nous d'anxiété, de solitude? Combien ont besoin d'entendre parler d'une solution qui, elle, ne faille pas? Peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation, c'est une solution qui ne faille pas. Ils ont besoin de l'entendre, cette solution. Parce qu'il en existe des solutions dans le monde. Tu sais, moi, je suis effaré de voir à quel point, en ce moment, tout ce qui est cristaux, cartes divinatoires, ça, c'est comme une mode. C'est une mode, c'est même, il y a un aspect esthétique à ça, on les collectionne, puis même on les porte comme bijoux. Il y a une des solutions, c'est l'anesthésie, de consommer, et faisons attention à ça aussi, nous, de consommer, surconsommer les séries une après l'autre, tu sais. Puis c'est comme rendu normal, puis dans mon entourage chrétien aussi, tu sais, on enchaîne comme 10 épisodes d'affilée, puis attention, attention. Une autre solution, c'est de croire en l'humanité. Ah, moi, je crois en l'humanité. Je crois que l'homme est la solution. Il y a toujours du bon en l'homme. Mais la réalité, c'est que le monde a besoin d'une réponse différente. Il a besoin de la voir en toi, en moi. Parce que les solutions que le monde va offrir, elles vont faillir. Tu ne peux pas passer ton temps dans une bulle à t'étourdir. Il y a un moment où tu vas devoir revenir à la réalité. Tu ne peux pas dire « moi, je crois en l'humain ». Parce que l'humain, ça fait des millénaires qu'il déçoit. On tourne en rond. Et ça, ce n'est pas fataliste. C'est la vérité crue. L'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours, on tourne en rond, c'est la même chose. Et ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un de déprimé. Là. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de misérable. Non, parce que notre histoire est différente. Notre réponse est différente. Et notre réponse ne déçoit jamais. Et notre réponse, c'est Jésus. Jésus est toujours là, il va être toujours présent. La réponse différente, mais qui ne déçoit jamais. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors je t'invite à, encore une fois, offre cette réponse. Hey, je connais quelqu'un qui peut te donner la paix en ce moment. Je connais quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Quelqu'un qui t'aime d'un amour inconditionnel. Donnons cette réponse, offrons-la. Donc cette réponse est différente, elle est impopulaire, elle est à contre-courant. Elle va en sens inverse du panthéon des solutions que notre société aujourd'hui offre. Parce qu'on s'entend que si les Égyptiens avaient des dieux sous forme de statues, on en a tout un panthéon, nous aussi. Donc cette réponse est différente, mais c'est la bonne nouvelle que nous prêchons. Donc, Joseph sert avec la même réalité. Il sert en offrant une réponse différente, mais il sert pendant que Dieu est en train de redéfinir son rêve. Alors que Joseph est en prison, à servir d'autres prisonniers, non seulement Dieu est en train de le préparer pour sa fonction à venir, mais ces événements même, ce service que Joseph fait là, le service que Joseph fait auprès des deux prisonniers est inclus dans le plan de Dieu, dans le chemin que Dieu a tracé pour conduire Joseph vers son rêve. Et Joseph, il va prendre conscience de ça. Alors qu'on est 2 ans plus tard, on retourne dans les maths, 2 ans plus tard, ok, il a 30 ans. Le pharaon, à son tour, a fait un rêve. Et là, il ne trouve personne pour lui donner l'interprétation. Et à ce moment-là, un des deux hommes à qui Joseph a expliqué le rêve va dire « Hey, je me souviens ». Ça lui a pris du temps, là. Ça lui a pris 2 ans. Mais il va dire « Hey, je me souviens, en prison, il y a un homme qui donne l'interprétation des rêves ». Donc Joseph va être sorti de prison, va donner la réponse, l'interprétation du rêve au pharaon. Et le rêve, enfin, va se réaliser. Il va être placé à la tête de l'Égypte. Mais c'est en servant que Joseph entre dans le rêve que Dieu a pour lui. Joseph avait un rêve de gloire, de succès, de réussite. Et pendant 13 ans, Dieu en fait était en train de redéfinir ce rêve. Alors qu'adolescent, il avait soif de renommée, il se vantait de sa position à venir. Là, le rêve va s'accomplir. Et effectivement, le rêve va s'accomplir. Ses frères vont arriver en Égypte, il y a une famine qui prend place. Et alors que, tu sais, ils n'auraient pas pu imaginer que Joseph était à la tête de l'Égypte. Ils arrivent auprès de lui, puis ils se prosternent devant lui. Ça arrive finalement. Et alors à ce moment-là, Joseph est là dans sa position, ça va bien. Ses frères ne le reconnaissent pas. Puis Joseph, il a les 13 ans en travers de la gorge. On peut le comprendre. Okay. Ses frères l'ont vendu, puis ça n'a pas été facile. Mais là, il va un peu en profiter. Okay. Il va, pendant un certain moment, il va rester dans l'ombre. Il ne va pas leur dire tout de suite qu'il est leur frère. Mais jusqu'au moment où là, il ne tient plus. Là, il ne tient plus en Genèse 45. Regardez ce qui va prendre place au verset 1, puis jusqu'au verset 7. « Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Si on continue au verset 3, il dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Et ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant nous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. » Joseph a compris c'était quoi le plan de Dieu, a compris que pendant tout ce temps, si Dieu lui faisait passer par là, c'est qu'il avait un plan non seulement pour lui, mais pour sa famille, pour son peuple. Et regardez, suivez avec moi à l'écran, il y a des passages soulignés, puis verset 5, Joseph dit à ses frères, ne vous tourmentez pas, alors qu'il pensait être appelé à dominer ses frères. Maintenant, il se sait appelé à accorder la paix. C'est eux qui vont leur donner la paix. Ne vous tourmentez pas. Ensuite, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. Je suis comme, ok, c'est toi qui devrais être fâché. Alors qu'il rêvait de vengeance, d'avoir son retour, il accorde le pardon. Et il reconnaît, il dit, c'est pour vous sauver. Alors qu'il se pensait appelé à une gloire personnelle, il se sait maintenant appelé au service des autres. Alors qu'il servait en prison, Dieu le conduit à servir une nation et même un continent au travers de la famine. C'est fou, là. Alors que son rêve était centré sur lui-même, finalement, maintenant son rêve est centré sur Dieu. Donc servir lorsque ton rêve semble partir en fumée, ça demande un pas de foi, un pas de confiance en Dieu, une confiance qu'on doit cultiver. Mais c'est en servant que tu vas entrer pleinement dans le rêve que Dieu a pour toi. Et moi, j'aime Joseph parce qu'on voit beaucoup de similitudes entre Joseph et Jésus. Et quand je regardais, quand j'étudiais un peu l'histoire de Joseph, alors que Joseph a reçu son rêve, c'est ce qui va se passer, hein, il va un peu se vanter auprès de ses frères, puis là, son père va le reprendre, va lui dire, hey, calme-toi le grand, t'as 17 ans, là, ta famille ne va pas venir se prosterner devant toi. Mais à ce moment-là, Jacob lui dit ça. Jacob, le père de Joseph, lui dit ça, mais regardez ce qu'il fait, Genèse 37, verset 11. Jacob, il garda la chose en mémoire. En d'autres termes, il est comme, ok, bon, il n'est pas encore tout à fait prêt pour ce que Dieu lui confie, mais j'ai quand même, tu sais, je me demande comment Dieu va le diriger, qu'est-ce que Dieu va faire avec lui. Et ça m'a fait penser à un autre passage qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, chapitre 2. Ça m'a fait penser à Marie qui vient de donner naissance à Jésus, et qui voit aussi, qui voit des mages, des bergers venir se prosterner devant son fils. Puis là, elle ne comprend pas tout. Elle ne sait pas encore tout, mais regardez, Luc 2, verset 19, voici ce qui est dit. Elle conservait le souvenir de ses paroles et y repensait souvent. En d'autres termes, c'est comme, waouh, qu'est-ce que Dieu va faire avec mon fils, avec le fils qu'il m'a donné? Elle se réjouit de voir ce que Dieu va faire au travers de son fils, qui lui est le serviteur parfait. Si Joseph avait un rêve de gloire, il a dû passer par le service pour accéder au rêve. Mais Jésus, lui, était dans la gloire. Jésus était glorifié, adoré par des myriades d'anges. De toute éternité, il était glorifié, mais il a pris la condition de serviteur. Alors, tu sais, ce matin, on parle de servir. Et j'aimerais te dire que servir, ce n'est pas ce que nous faisons parce que nous sommes des bons chrétiens. Être un serviteur, c'est ce qu'est un chrétien. Ce n'est pas juste ce qu'on fait parce que les bons chrétiens, parce qu'on doit se comporter comme il faut, parce qu'on doit servir. Nous sommes des serviteurs parce que c'est dans notre ADN en tant que chrétien, parce que Jésus était serviteur. Et Dieu a placé un rêve en chacun de nous. Alors peut-être que le rêve semble t'échapper aujourd'hui, mais je t'invite à regarder au serviteur par excellence, à l'imiter, à t'abandonner à lui. Ouais, ça demande un pas de foi de servir alors que tes propres affaires, ça ne marche pas. Ça demande de t'abandonner à lui, à le laisser redéfinir le rêve qu'il t'a donné. Vous avez sans doute déjà entendu parler des temples d'Abu Simbel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, finalement. Les temples d'Abu Simbel, ok. En fait, c'est des temples vraiment magnifiques, puis ça date, on n'est pas si loin de Joseph, ça date de 1260 avant Jésus-Christ. Et ces temples-là ont quelque chose de spécial. Déjà, ils sont vraiment magnifiques. C'est des temples qui n'ont pas été... Ça n'a pas été construit, ça a été taillé à même la montagne. Donc, ils ont chaque statue, chaque salle du temple à l'intérieur. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'histoire humaine. Mais ces temples, ce n'est pas juste le fait qu'ils sont magnifiques, qu'ils ont quelque chose de spécial. C'est aussi son histoire. En fait, en 1960, le gouvernement égyptien a décidé de construire un barrage sur le Nil pour approvisionner le pays en électricité. Et donc, ce que ça allait causer, ce barrage-là, c'est que ça allait inonder la vallée où ces temples étaient. Donc, il y a commencé à avoir vraiment toute une levée de tous les archéologues, historiens. Ils disent, on ne peut pas perdre ça, c'est un joyau de l'humanité, on ne peut pas le perdre. Donc, ils ont commencé à négocier avec le gouvernement, ils ont négocié, puis ça ne donnait rien. L'Égypte avait besoin d'électricité, mais non seulement ça, mais ce barrage servait aussi à gérer les crues du Nil. Donc la négociation n'a rien donné. Puis s'en est suivie toute une réflexion. Il y a eu des projets qui venaient de partout dans le monde de comment on peut faire pour sauvegarder ce temple. Des projets vraiment de tous les experts, les meilleurs architectes du monde. Et il y a eu toutes sortes de plans qui sont arrivés. Il y avait quelqu'un qui est arrivé avec l'idée de faire un méga scaphandre. Puis là, les touristes pourraient plonger sous l'eau et aller visiter le temple. Finalement, le projet qui a été retenu, là on rit, mais attendez, savoir le projet, c'est quoi? Le projet qui a été retenu, c'est qu'on allait découper la montagne où il y avait le temple, chaque morceau du temple, puis on allait le déplacer, le mettre en hauteur, là où le temple serait à l'abri de l'eau. Et alors, c'était un projet vraiment immense. Puis ils ont commencé à le faire. Ils ont commencé à faire ce projet chaque bloc, puis il fallait scier les blocs de pierre. Vous irez voir sur YouTube des images de ça, là, c'est fou. Les gens sciaient à la main parce qu'ils avaient peur d'abîmer les statues et de la roche à la main. Un projet immense. Puis là, ils ont commencé ce projet-là. Ça prenait des années. Imaginez, déplacer une montagne, c'est littéralement ça. Mais le projet, en même temps, le projet du barrage avançait aussi. Et à un moment donné, ils avaient comme de la pression parce que le projet du barrage avançait plus vite et l'eau a commencé à monter dans la vallée. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont construit une espèce de digue immense, une barrière, comme une espèce de paroi, un mur en tôle pour protéger le temple qui était encore là. Puis ils ont continué à travailler et puis ça a pris quasiment 10 ans à déplacer le temple. Ils l'ont déplacé, finalement ils ont réussi à le reconstituer, c'est fou là, il est comme ce qu'on voit là, c'est ça. C'est pas le temple original. Ils l'ont déplacé, ils ont même reconstruit la montagne autour pour qu'il ait l'air dans son élément naturel. Et je m'en viens, il y a une raison pourquoi je vous raconte ça. C'est pas juste un cours d'histoire. C'est à ce moment-là, c'est avec cette histoire-là qu'est née l'idée de patrimoine mondial. Après cet épisode-là, l'UNESCO a commencé à restaurer d'autres monuments, à conserver, à travailler, comme on le sait aujourd'hui, à préserver des monuments qui font partie du patrimoine mondial. Peut-être que ton rêve t'échappe ce matin. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a un barrage qui est sur le point d'ouvrir ses écluses sur ta vie. Qu'il y a une digue qui est sur le point de lâcher. Et tu essayes, il y a de la pression, mais ça ne marche toujours pas. Mais ce matin, j'aimerais t'inviter à t'abandonner au meilleur des architectes. À t'abandonner à Jésus, à lui abandonner tout ça, pourquoi tu luttes. Puis je ne sais pas quelle est, tu sais, on parle de rêve là, mais peut-être c'est juste une question de survie, ce n'est pas un si grand rêve là. Mais je t'invite à t'abandonner entre les mains du meilleur architecte. Et quand les eaux vont venir dans la vallée, même si ton rêve n'est pas terminé, même si tu n'es pas totalement rebâti, redéfini, Dieu va mettre une muraille autour de toi. Il va te garder au sec. Il va te protéger de l'eau lorsque la pression va se faire ressentir. Parce que oui, elle va se faire ressentir. Lorsque les eaux vont commencer à monter, Dieu va te protéger. Et Dieu va redéfinir ton rêve. Il va rebâtir ta vie pierre après pierre. Et non seulement ça, mais de ça, il y a quelque chose qui va naître. Quelque chose qui va naître. Non seulement tu vas être rebâti, mais Dieu, au travers de ça, va rebâtir d'autres personnes. Il va commencer à restaurer d'autres monuments autour de toi. D'autres hommes, d'autres femmes qui sont des monuments précieux à ses yeux, comme tu l'es. Je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose de beau avec toi, mais il faut que tu arrêtes. Si tu me permets, il faut que je te parle franchement, il faut que tu arrêtes d'essayer par toi-même. Tu sais, on parle beaucoup de cultiver notre relation avec Dieu, de s'attacher à lui, de venir le dimanche matin à l'église, mais c'est la source de toute chose. Arrête d'essayer par toi-même. Puis je minimise pas ce que tu vis. Puis on a tous nos rêves qui nous échappent en ce moment-là. On a tous quelque chose dans notre vie. Hein. Quelqu'un de malade dans notre famille. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu abandonnes à Dieu. On va terminer avec un chant. On va terminer avec ce chant qu'on connaît tous bien, qui s'appelle « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». C'est un chant qu'on connaît bien, qui a des années. Et ça dit ensuite « Ne permet à personne d'en reprendre rien ». Puis quand on dit « Ne permet à personne d'en reprendre rien », je parle de moi sûrement, surtout. Ne me permets pas de reprendre quoi que ce soit de ce que je t'abandonne ce matin. Est-ce qu'on veut faire cette prière ensemble ? Seigneur, on t'abandonne tout. Prends tout, Seigneur. Jésus, puis on te le dit avec bonheur, sachant que tu es la solution. La réponse différente, Seigneur. Et nous, on est entêtés, Seigneur, on revient toujours, mais toi, tu es patient, tu es bon. Ne permets à personne de reprendre rien de ce qu'on t'abandonne ce matin. Tout ce qui nous préoccupe, nos soucis, nos rêves parfois brisés, on te les confie, Seigneur, et on veut entrer dans ce moment où on te sert, parce qu'on croit que tu vas faire quelque chose au travers de nous. Tu vas restaurer d'autres personnes autour de nous alors qu'on te sert. Et toi, pendant ce temps-là, viens rebâtir nos vies. On te fait confiance. Viens rebâtir nos vies. Seigneur, on veut te suivre sur le chemin de la croix. Et qui d'autre mieux que toi sait ce que c'est le chemin de la croix, le chemin de la souffrance, Seigneur. Tu l'as enduré, alors on veut se confier à toi, Seigneur Jésus. Prends tout ce qu'on est. Prends tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout.